Gloire à Dieu. Nous allons lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, au verset 36. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36. Nous allons parler de la persévérance. Persévérance dans le Seigneur. Ça fait partie de nos armes les plus puissantes, la persévérance. C'est une grande arme dans la vie chrétienne qui est même, je dirais, incontournable. Voilà. Nous allons lire donc dans Hébreux 10, 36 qui en parle.
Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'avoir, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis.
Voilà, c'est écrit, vous avez besoin de persévérance. Nous avons besoin de persévérance. Donc ce n'est pas une option, c'est quelque chose de nécessaire. Le chrétien est obligé de vivre la persévérance, de manifester la persévérance. Et quand... nous lisons la Bible, il y a beaucoup de versets qui parlent de persévérance. Il y a un verset même qui dit « Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés ». Donc on voit l'importance de la persévérance. La persévérance, c'est le lien de la foi. Parce que la persévérance, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir attendre l'accomplissement des promesses et attendre avec foi et dans la volonté de Dieu. D'ailleurs, ce verset nous résume la chose en disant « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis, ce qui vous est promis. » C'est-à-dire que ce n'est pas une attente dans la tristesse, une attente dans l'abattement, une attente dans le péché, ni une attente dans le découragement. C'est une attente certaine par rapport à ce qui a été promis, on se dit, cela me sera donné. On attend avec fermeté et avec et dans la volonté de Dieu. Donc, on parle aux gens qui font la volonté de Dieu. Si tu fais la volonté de Dieu, tu dois apprendre aussi la persévérance. Il ne suffit pas de faire la volonté de Dieu. On peut faire la volonté de Dieu et après ne plus faire sa volonté. À cause du manque de persévérance, parce qu'on a l'impression qu'en faisant la volonté de Dieu, Dieu n'agit pas et on décide de ne pas persévérer. Nous ne sommes pas les premiers à avoir ce problème-là. Dans le psaume 73, il est question d'Asaph qui se plaint, qui dit que lui qui a travaillé dans la vérité, dans la sainteté, se retrouvent démunis, alors que les gens qui sont dans le péché sont riches et sont forts. Et ils se posent la question de changer de façon d'être, de changer de maître. Mais comme il était vraiment de Dieu, il y a quelque chose en lui qui a refusé. Il a préféré persévérer avec Dieu. La vie chrétienne va avec la persévérance. Sans la persévérance, il n'y aura pas de vie chrétienne. Ça va ensemble. Vous avez besoin de persévérance. Et dans d'autres passages, c'est écrit, vous avez dans la version Martin, vous avez besoin de patience afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez l'effet de sa promesse. Donc, il y a la persévérance, mais pour qui? Pour ceux qui font la volonté de Dieu. Parce que ceux qui font la volonté de Dieu, à un moment donné, ont l'impression que ça ne paye pas. Et ils sont tentés de changer de paradigme, de changer de façon de faire. Essayez peut-être autre chose. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, reste sur ma parole. Espère, persévère. Dans d'autres versets bibliques, on le dit, par exemple, dans Hébreux 6, 15, « Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. » Donc Abraham a persévéré. C'est ça qui a permis qu'il puisse voir la promesse s'accomplir. Il a vu Isaac. Est-ce que vous vous rendez compte? Faire 20 ans, attendre un enfant à l'âge de 100 ans, et ta femme donc à l'âge de 80 ans, on te promet donc un enfant alors que ta femme a 60 ans. C'est de la persévérance, bien-aimé. Ne pensons pas qu'Abraham, en tant qu'humain, soit meilleur que toi et moi. Pas du tout. Nous sommes des humains pareils, dégénérés par le péché. Mais pourquoi Dieu va demander à Abraham de la persévérance et pas à nous? C'est impossible, ça serait de l'injustice. La même vie que Dieu a eue avec Abraham, il va l'avoir aussi avec nous tous. Il n'y a pas d'injustice avec Dieu. C'est le même sort, bien-aimé. Il n'y a pas de diplôme qu'on donne différemment. Ça passe par le même cursus scolaire. Il y a le même bac. On passe par le même cursus. Et si Abraham est passé par là, nous passerons par là. La persévérance, c'est inévitable. Et comme nous complétons notre titre d'aujourd'hui, la persévérance, c'est une histoire d'amour entre nous et Dieu. Il n'y a pas d'amour sans la durée, sans la persévérance, sans l'exercice de se supporter les uns les autres, l'un l'autre. Il n'y a pas d'amour. Même un chanteur du monde a chanté. Il a dit, l'amour au jour le jour, ce n'est pas l'amour. Voilà, quelqu'un du monde, hein, il dit, c'est trop facile. Parce qu'on est parti au restaurant, c'est ça l'amour? Non. Il dit l'amour le vrai. Un chanteur du monde. Il dit l'amour le vrai, il faut le garder. Mais ce n'est pas... Il a dit c'est fragile parce que l'être humain s'attend à ce que l'amour soit toujours quelque chose qui est lié au restaurant, à la danse, aux sorties. Non. L'amour, c'est plus profond que cela. L'amour va avec la persévérance. Un vrai amour peut durer longtemps et affronter les vagues, les tempêtes. Ça, c'est le vrai amour. Affronter le péché, ça, c'est le vrai amour. Lutter avec tout ça et rester, ça, c'est le vrai amour. Et Dieu, bien-aimé, c'est quelqu'un qui aime. Et il veut une histoire d'amour avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, sache-le, la relation avec Dieu, c'est une histoire d'amour. Il veut une histoire d'amour entre lui et chacun d'entre nous. Ce n'est pas une histoire à deux ou à trois, à trois ou à quatre. C'est une histoire à deux, entre toi et lui. Et le véritable amour se révélera, se concrétisera par la persévérance. Par la persévérance. Par le temps, par les épreuves, par les luttes, c'est ça le véritable amour. Les gens confondent l'amour avec la complicité. L'amour, ce n'est pas la complicité. D'ailleurs, on voit bien combien les complicités finissent par s'éteindre. L'amour véritable, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour dans la vérité. Et Dieu voudra construire une histoire d'amour entre lui et chacun d'entre nous. C'est ça qui fait que la vie chrétienne, la vie avec Dieu, devient une vie de persévérance. Nous allons lire dans Genèse l'exemple de Jacob. Genèse 47, versets 7 à 9. Genèse 47, versets 7 à 9.
Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. »
Voilà, bien-aimé, Jacob dit à Pharaon, les jours des années de ma vie, c'est 130 ans. Mais ça a été des jours difficiles. On peut relire encore le verset 9.
Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais.
Voilà, ça a été des jours. Bien aimé, certains diront, mais 130 ans, c'est beaucoup. Mais ce n'était pas mathématiquement beaucoup par rapport à ce qu'avaient vécu Isaac et Abraham. Mais en plus de ça, le problème, c'est que ça a été des jours mauvais, des jours difficiles. Voilà ce que Jacob dit à Pharaon. Mes jours ont été difficiles. Qu'est-ce qu'on dit du Seigneur dans Isaïe 53 ? Il est dit qu'on l'appelait l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Bien-aimé, c'est ça la vie chrétienne. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Comment expliquer ça ? C'est lié à la persévérance. C'est lié à l'amour avec Dieu. Le véritable amour nous fera passer par là, par la persévérance. Le lien fort que nous avons avec Dieu, ça passera par la persévérance pour être éprouvé, pour être purifié, pour produire un amour parfait et total. Jacob dit à Pharaon en face, ça a été difficile pour moi. Vous vous rendez compte combien de fois Jacob a dû persévérer ? Déjà, lorsqu'il naît, il a fallu lutter avec son frère pour le droit de naître dans le ventre de la maman. Ensuite, il y a au moment où le papa se sent mourir, il veut bénir. Jacob a dû user avec sa maman de mensonges en quelque sorte, de subterfuges pour pouvoir recevoir la bénédiction à la place d'Isaac, d'Ésaü. Bien-aimé, ça laisse des traces, parce que c'est quand même ton frère. Donc Jacob a usé de tout cela. Ce n'est pas facile. Vous allez me dire, mais oui, mais il fallait qu'il attende simplement que Dieu lui-même agisse. Oui, c'est vrai, il fallait qu'il attende. Mais lui, il est allé au devant, il a fait ça. Et il a dû fuir la colère de son frère. Voilà les jours de Jacob. Fuir la colère de son frère. Et il va épouser Rachel. On lui impose 7 ans de travail par Laban. Des jours difficiles. Toi, tu viens aujourd'hui pour épouser, on te dit tu dois attendre 7 ans. Et 7 ans au service du monsieur. Et les 7 ans sont finis. On le trompe, on lui donne une autre femme. On lui dit, si tu veux ta vraie femme, tu dois attendre, tu dois travailler encore 7 ans. Bien-aimé, vous vous rendez compte de tout ça? La vie de Jacob. Et à un moment donné, il est obligé de fuir Laban parce qu'il est exploité. Il a fait 14 ans, mais il est exploité. Mais en fuyant, il a peur que Laban le rattrape pour le tuer. Bien aimé, ce n'est pas, c'est pas facile vivre dans la fuite comme ça. Sachant qu'on peut tuer toi et tes enfants et toute ta famille. Il fuit, mais en chemin, il y a encore qui à affronter. Il y a encore Ésaü à affronter. Il est obligé. Hein? On va lire le texte. Au moment où il traverse le torrent de Yabok. Maintenant, c'est là qu'il rencontre un ange. Et il y a combat, jusqu'au matin dans Genèse 48, 1 à 7. Il rencontre. Non, excusez-moi. Genèse 32, 22 à 32. Genèse 32, 22 à 32.
Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui répondit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. « Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche.
Voilà, bien-aimé, Jacob qui lutte avec cet homme toute une nuit. Ça nous rappelle la persévérance. Et il se retrouve comment ? Il se retrouve seul. Nous avons dit que Dieu veut une histoire seul à seul avec chacun d'entre nous. L'histoire collective en église, c'est très bien, mais il faut une histoire personnelle avec Dieu. Une vie personnelle avec lui. Des arrangements avec lui. Des promesses et des attentes d'accomplissement. Des conversations. Des discussions avec Dieu. Des projets avec lui. Personnellement, chacun doit avoir cette vie-là. Une vie, bref, d'un homme et d'une femme qui se marient en quelque sorte. C'est ça la relation que Dieu veut avec chacun d'entre nous. Pas seulement la relation générale entre lui et l'Église, où on appelle l'Église l'épouse de Dieu, mais il faut une relation personnelle avec Dieu pour chacun, comme un mari et une femme. Bien-aimés, le mariage, c'est ça qui montre la réalité de l'amour. C'est pas pour rien qu'on dit que Dieu a institué le mariage, parce que c'est ça qui montre la réalité de l'amour. Parce que toutes les autres relations, copains, copines, toutes ces choses-là, c'est léger, c'est des relations d'intérêt. Mais quand on voit les principes du mariage, quand Jésus dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, c'est pour dire qu'il y a un principe d'amour optimal. Donc, ça veut dire que dans cet amour-là, si tu entres dans cet amour-là, on attend de toi quelque chose d'optimal par rapport à ce que l'humain peut manifester comme amour. Parce que quand tu es dans une relation qui ne peut pas se rompre, ça, c'est grave. Ça veut dire que tu devras tout supporter. Et qu'est-ce qui ne peut pas arriver? On ne sait pas. L'un peut devenir handicapé. L'autre peut tromper. Beaucoup de choses peuvent venir. Le corps peut changer. Mais on dit, c'est une relation censée être à jamais. Maintenant, comment vivre dans une telle relation sans qu'on entre dans le véritable amour divin? C'est impossible. Ça demande d'être dans l'amour divin. Le mariage, c'est pourquoi Dieu y tient. Parce que ça fait partie de ses révélations sur l'amour. Parce que Dieu lui-même compare son amour avec nous à un amour du mariage. Donc c'est une révélation divine physique, le mariage. C'est pour dire, voilà l'amour, ça doit aller comme ça jusqu'au bout. Quelles que soient les tempêtes, les vents, les marées, ça doit aller comme ça, c'est de l'amour parfait. Quelque part, le mariage permet d'entrer dans une vraie connaissance de Dieu. Comprendre, ah, mais c'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Dieu a demandé à un prophète, Osée, il a dit à Osée, va épouser une prostituée. Osée a dit, mais une prostituée, oui, oui. Comme ça, tu comprendras ce que moi, je vis avec vous. Quand vous allez vers des faux dieux, vous vous prostituez. Et on ne nous dit pas que le jour où Osée prend cette prostituée en mariage, on ne nous dit pas qu'elle arrête avec sa prostitution. On ne nous dit pas ça. Peut-être qu'elle a continué. Mais Dieu voulait faire vivre à Osée ce que lui-même Dieu vit. Quand nous péchons, nous allons vers des faux dieux. Vous allez me dire, mais pourquoi il veut lui faire vivre ça? Mais parce qu'ils sont dans une relation d'amour. Dieu et Osée étaient dans une relation d'amour. Il est écrit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Ça veut dire que on devra ressentir les mêmes choses. Donc, quand on épouse Dieu, c'est ça que vous savez, c'est une chose d'être sauvé. C'est une autre chose d'épouser Dieu. Beaucoup sont sauvés peut-être, mais ils n'ont pas épousé Dieu. Ils restent dans une sorte de partenariat. Mais quand Dieu commence à éprouver, commence à réaliser qu'avec un tel, je suis vraiment dans une relation de véritable amour, de mariage, mais bien-aimé, il partagera tout avec toi. Il partagera tout. La gloire, mais aussi les souffrances. Les vrais serviteurs sont reconnus pour partager les mêmes souffrances que le Seigneur. Et ça devient comme une gloire pour eux. Vous savez, il nous est écrit dans Actes des Apôtres, quand ils ont été fouettés, les Pierre, les autres apôtres, ils ont été fouettés. Ils étaient dans la joie de souffrir à cause du Seigneur. Au fait, ils avaient atteint le niveau d'être l'épouse du Seigneur. Partager les mêmes souffrances. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous, on cherche à partager? La gloire seulement. Partager les réussites. Mais est-ce que c'est du vrai mariage, ça? C'est-à-dire que tu aimes ton mari que quand il a l'argent, quoi. Tu l'aimes que quand il réussit au boulot, quoi. Est-ce que ça, c'est du vrai mariage, ça? Le véritable amour était conditionnel. C'est un amour total qui peut traverser les difficultés, les épreuves. Et le Seigneur va permettre que notre vie soit une vie de persévérance. Une vie de persévérance qui solidifie l'amour qu'il y a entre lui et nous. C'est très, très important de comprendre ces choses-là. Sinon, on ne va pas jusqu'au bout de la vie chrétienne. Qu'est-ce qui explique que beaucoup de gens, ils font naufrage? L'apôtre Paul a dit, il y a tel et tel qui ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est la persévérance. À un moment donné, beaucoup se disent, mais oui, mais ça fait longtemps que je suis dans la vérité. Mais les choses n'arrivent pas toujours. Ce que j'attends n'arrive pas toujours. Mais les écrits, Hébreux 10, 36, qu'on vient de lire aujourd'hui, nous disent, continue, persévère. Tu n'es pas le premier. Abraham a attendu. Tu n'es pas le premier. David a attendu, alors qu'on avait déjà un roi, il a attendu. Tu n'es pas le premier, Joseph a attendu. La relation avec Dieu, c'est toujours la même chose. Voilà ce que les Écritures nous disent. Nous, bien-aimés, nous sommes désintéressés dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous disons la vérité. Nous ne sommes pas venus vendre un faux Dieu qui nous dit, si on croit, tout sera toujours bien. Non, nous disons la vérité. C'est le Dieu qui veut la relation d'amour. une relation profonde et on réalise, on comprend qu'une relation est profonde lorsqu'elle peut garder la saveur dans la persévérance. Dans le temps, dans les épreuves, dans les difficultés, et ça tient toujours. Là, on dit, ça c'est du véritable amour. C'est une relation sérieuse. Nous passerons par cela, bien-aimés. Le propre Fils de Dieu est passé par ça. Le propre Fils de Dieu. À un moment, Jésus a dit, mais race d'incrédule, combien de temps je vais rester avec vous encore? Donc, c'est-à-dire que sa vie sur terre était une vie de douleur. Mais c'était aussi le test de son amour pour son papa. Il est allé jusqu'au bout. C'est ça le véritable amour. À Gethsémané, il dit, Père, est-ce que tu ne peux pas enlever cette coupe de moi? Mais il dit, mais je veux faire ta volonté. Je t'aime tellement que je préfère faire ta volonté. Je préfère être écrasé, mais je veux faire ta volonté. C'est ça le véritable amour. Faire ta volonté. Et nous passerons tous par ça, bien-aimés. Je suis en train de prêcher ces choses parce que le Seigneur est en train de se constituer une armée. Mais bien-aimés, l'armée du Seigneur ne peut réussir que si nous imitons Joseph, Jacob, tous ces gens-là. Sinon, ça sera les armées légères qu'on voit aujourd'hui qui finissent dans l'autre camp des ténèbres, qui finissent par travailler pour l'argent, qui finissent par travailler pour le succès, qui finissent par travailler pour YouTube, pour se faire beaucoup de vues. Ça finit comme ça. Mais le Seigneur veut une vraie armée, une armée solide qui va terrasser les forces des ténèbres, qui va détruire les œuvres des ténèbres. Bien-aimés, on ne blague pas avec Satan. Si on est léger, il nous aura. Alors le Seigneur bâtit notre relation solidement avec lui, dans la persévérance, pour produire de bons fruits, des fruits éternels. Jacob a combattu jusqu'au matin, vous vous rendez compte, un combat physique jusqu'au matin, ça, c'est beaucoup de temps. Mais le combat de judo, c'est 5 minutes. 5 minutes, après les 5 minutes, ils sont épuisés. Ils sont épuisés, ils sont obligés de souffler pour remettre bien leurs habits, leur tenue. Mais en réalité, ils en profitent pour respirer. 5 minutes. Mais Jacob a combattu jusqu'au matin, ça peut être long. Bien aimé, quand les disciples ont vu Jésus-Christ pris et crucifié, vous vous dites, mais c'était que 3 jours. Où est la persévérance? Bien-aimé, ces 3 jours-là. Le temps, il est relatif. Le temps n'est pas le même pour tout le monde et dans toutes les circonstances. Ce n'est pas le même. Il n'y a qu'à voir quand on est dans un bon temps. Ça passe vite, non? Mais quand on est dans un mauvais temps, ça passe lentement. On a l'impression que c'est long. Alors, 3 jours de voir, de savoir que votre Seigneur, le roi des rois, la gloire même de Dieu a été crucifié. 3 jours d'être dans les bêtements. 3 jours, vous le savez, vous êtes dans l'incertitude. 3 jours, ça a été très long. Très long, très long. C'est ça la persévérance. Mais ils se sont dit, on est attaché à lui. C'est comme ça. On reste avec lui. Et Jésus lui-même, dans Luc 22, 28, il dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi j'ai réservé des sièges au royaume de Dieu. Vous allez vous asseoir à côté de moi. On jugera ensemble les 12 tribus d'Israël. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce qu'ils ont persévéré avec Jésus. Bien-aimé, la vraie relation avec Dieu passe par la persévérance. Vous êtes de ceux qui... Luc 22, 28, hein? Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Il n'a pas dit, vous êtes de ceux qui avaient guéri les malades, qui avaient ressuscité les morts, qui avaient bien prêché. Pas du tout. Parce qu'il sait que tout ça, c'est lui-même qui fait ça à travers les gens. Il ne va pas féliciter les gens pour ce que lui, Jésus, fait. En eux, par son esprit. Il va te féliciter pour ta part dans ta relation avec lui. Ta part à toi, c'est d'accepter la honte à cause de Jésus. Ta part à toi, c'est de t'humilier, de mettre ton intelligence en dessous de la parole de Dieu. C'est ça ta part. Ta part à toi, c'est d'accepter de perdre des avantages à cause de Jésus. Ça, c'est ta part. Mais tout le reste, que tu prêches bien, que tu chantes bien, que tu fasses des miracles, que 1 million de personnes te suivent, ça, ça n'a rien à voir avec toi, parce que là, c'est la puissance du Saint-Esprit qui pratique ça. Ta part à toi, c'est céder vis-à-vis de Dieu. Tu cèdes. Tu laisses Dieu être ton maître. Ça, c'est ta part. C'est ça ta gloire. C'est ça les épreuves. Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Quand Jésus dit, il faut le manger, tout le monde le quitte. Les 12 apôtres sont restés. Ils ont dit non, tu as les paroles de la vie éternelle. On ne te quitte pas. C'est ça les épreuves. Tout le monde me quitte, mais toi tu restes. C'est ça aussi le véritable amour. Et Dieu veut construire ça. Et Jacob, bien-aimé, quand il connaissait ce qu'on vient de lire là, qu'est-ce que Dieu lui donne comme nom? Israël. Tu as combattu avec Dieu et les hommes, tu as été trouvé vainqueur. Dieu veut nous donner à nous tous le nom d'Israël. Il veut donner ça à tout le monde, le nom d'Israël. Tu as combattu avec Dieu et les hommes. C'est-à-dire que malgré les épreuves que tu as connues avec Dieu et les hommes, tu es resté toujours fidèle à Dieu. Tu es resté toujours attaché à Dieu. Bien-aimé, nous ne disons pas que tu as été sans péché, mais tu es resté attaché à ton Dieu. Et Dieu lui donne le nom d'Israël. Et désormais, Joseph, Jacob n'allait plus changer. Il a reçu un nom nouveau. Mais il allait connaître d'autres difficultés encore. Perdre son propre fils, Joseph. On vient lui montrer la tunique de Joseph avec du sang dessus. Voilà. Bien-aimé, pendant 20 ans environ, Jacob a eu un visage attristé. Est-ce que vous vous rendez compte, toutes ces années-là? Au fait, il était comme vidé de lui-même. Joseph était sa vie. Il était comme vidé. Mais vous dites, mais pourquoi Dieu a permis ça? C'est horrible. Il aurait, bien aimé, en 20 ans, Dieu ne pouvait-il pas envoyer un messager venir dire à Jacob, ton fils est vivant. Même un rêve, un songe, où dans le songe, Jacob allait voir Joseph en Égypte et se calmer. Joseph, n'est-ce pas, il était déjà devenu un homme important. Hein? Vrai ou faux, à un moment donné, Joseph était devenu un homme important. Ne pouvait-il pas envoyer quelqu'un jusqu'en Israël en lui donnant beaucoup d'argent, va chercher mon papa pour le calmer? Posez-vous ces questions-là, parce qu'on ne sait jamais poser ces questions-là. Il pouvait le faire, pourquoi il n'a pas fait? Le blocage de Dieu. Dieu voulait une relation. Bien-aimé, vous savez, il y a un verset, parce que certains ne peuvent pas comprendre ça. C'est pourquoi je donne beaucoup de versets. Il y a un verset qui dit dans Cantique des Cantiques, « Ne provoquez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. » N'entre pas dans une relation avec Dieu d'amour. Parce que Dieu aime la relation d'amour. Une relation profonde. C'est beau cette relation-là. C'est extraordinaire. Mais c'est difficile pour la chair humaine. Mais en même temps, c'est bien ainsi. Puisque la chair humaine doit être écrasée. Doit mourir pour que l'esprit vive avec le Seigneur. C'est aussi ça le but. Il fallait que Jacob soit quoi? Soit meure à lui-même et vive avec Dieu sa relation d'amour. Là, la vie, puisque sa vie venait de Joseph, il fallait que Joseph ne soit plus là pour que Jacob soit seul avec Dieu. On a lu dans Genèse 32, il a fait passer sa femme et ses enfants, ses femmes et ses enfants. Il est resté seul et il a combattu cet être angélique. Et Dieu restera seul avec toi. Qui n'est pas resté seul dans, dans la Bible avec Dieu? L'apôtre Paul dit, tous m'ont abandonné. Qui n'est pas resté seul? Quand Pierre était en prison, il était seul. Qui n'est pas resté seul? C'est une relation seul à seul avec Dieu. Et Jacob réalise que son fils n'est plus. Il pleure. Ce n'est pas fini. On lui prend encore qui? Benjamin. Oh là là. On veut lui prendre Benjamin et Jacob est déstabilisé. Il sent que il va mourir, quoi. Mais il ne se suicide pas parce que il garde à l'esprit que Dieu est Dieu. C'est ça. Il a combattu avec Dieu et les hommes. Malgré les épreuves envoyées par Dieu, il dit, je ne vais pas me suicider parce que c'est un péché. Dieu est Dieu. Je reste avec lui. Je ne suis pas content. Mais je reste avec lui. C'est là que quand il arrive devant Pharaon, il dit, Monsieur le Pharaon, mes jours ont été difficiles. Mais, il fallait que ça se passe ainsi. C'est ma relation avec mon Dieu. Ma relation d'amour. Ça devait se passer ainsi. Bien-aimés, quand nous serons au ciel, Dieu partagera tout ça avec nous, avec chacun. Il se rappellera avec toi tout ce que tu as enduré pour lui. Il dira, vraiment, tu es ma fille. Vraiment, tu es mon fils. Regarde tout ce que tu as enduré pour moi. Bien-aimé, ça sera éternel. C'est pourquoi Jésus a laissé les traces des clous dans ses mains et les traces de côté, mains et pieds. C'est les traces d'amour éternel entre lui et son papa. Tu es mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et le fils va dire, mais moi aussi, regarde les trous, souviens-toi. Et Dieu causera ainsi avec chacun d'entre nous. On s'embrassera, on dira mon père, il dira mon fils, mon père, ma fille. Et tout viendra au souvenir de chacun, tout ce qu'on aurait fait. La honte qu'on s'est prise à cause du nom du Seigneur. L'argent dont on s'est dépouillé à cause du nom du Seigneur. L'avenir professionnel dont on s'est dépouillé à cause du nom du Seigneur. Tout cela reviendra. Le fait d'avoir supporté le péché des autres, mais d'avoir gardé l'amour et la confiance en Dieu. Tout ça viendra et on pleurera d'amour avec lui. C'est une histoire d'amour, bien-aimé. C'est une histoire d'amour. Le choix qu'on aurait fait, comme les Jérémie, Daniel, les amis de Daniel, des jeunes comme tous les jeunes, David, des jeunes comme tous les jeunes, qui pouvaient faire le choix d'être léger, d'être quelconque, en se disant, il y a les parents pour les choses sérieuses. Mais non, c'est des jeunes. Jérémie, les amis de Daniel, ils étaient beaux, des jeunes, comme tous les autres jeunes. Mais ils se sont comportés beaucoup plus, avec beaucoup plus de responsabilité que des adultes. Ils ont, entre guillemets, gaspillé leur jeunesse à vivre comme des adultes, mais à cause de l'amour pour leur Dieu. Ces gens-là, bien-aimés, ils sont élevés au ciel. À côté de Dieu. Et surtout, ils sont dans une relation d'amour avec le Seigneur extrêmement forte. Ils ont tout laissé pour suivre le Seigneur. Même la jeunesse a été sacrifiée par amour pour Dieu. Nous passerons par la persévérance. Il faudra persévérer. Comme Jacob, jusqu'au matin, et recevoir le nom d'Israël. Tu as combattu avec Dieu et avec les hommes. Tu as préféré Dieu. Tu es resté avec Dieu. Dieu te dira, mais je t'ai envoyé toutes sortes d'épreuves, mais je t'ai pas vaincu. Parce que mon esprit fonctionnait à cause de ton amour pour moi. C'est mon esprit. C'est l'esprit de Dieu qui donne à Jacob la victoire. Mais pourquoi l'esprit de Dieu agit en Jacob? À cause de l'amour de Jacob pour son Dieu. Une histoire d'amour. C'est l'esprit de Dieu qui nous donnera la capacité de persévérer. Mais pourquoi? Parce qu'il aurait lu dans notre cœur qu'on aime Dieu. Et lui nous aidera à aller jusqu'au bout. Malgré les épreuves envoyées par Dieu. Malgré le péché. Nous lisons dans Osée 2, 10 à 18. Osée 2, 10 à 18. Donc, on n'a pas lu tout le début, mais il s'agit d'Israël que Dieu traite comme une femme. Il parle d'Israël comme une épouse infidèle. Donc, quand vous allez voir le mot « elle », il s'agit d'Israël, quoi, comme une épouse, l'épouse de Dieu.
Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je répandrai mon blé en son temps et mon mou dans sa maison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Et maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, « C'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers. Allait après ses amants et m'oubliait. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance, et là, elle chantera, comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître.
Amen. Amen. En ce jour-là, tu ne m'appelleras plus mon maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la relation qu'il y avait avant, c'était une relation de maître avec serviteur. Mais après les épreuves, après le désert, après la purification, tu m'appelleras maintenant mon mari. C'est ça la relation avec tout chrétien. Ça veut dire que Dieu va nous amener à un niveau où les épreuves, la purification, la sanctification épuise, fatigue notre chair au point que l'Esprit de Dieu maintenant est pleinement fort en nous pour agir. Et là, notre relation, ça sera une relation de mari à épouse. On appellera Dieu mon mari. Ce ne sera plus le maître, mais l'intimité sera tellement grande, c'est qu'on sera comme un homme marié avec une femme mariée. Voilà l'objectif de Dieu. Il dit que à cause de tes péchés, tu as été comme une épouse infidèle. Tu as fait, voilà, ce que je te considère qu'Israël. Du coup, je suis obligé de te frapper pour te purifier. Je suis obligé de t'amener dans le désert pour te purifier. Bien-aimé, première raison de la persévérance, c'est que nous avons besoin du temps pour nous rendre compte que le péché est mauvais et que les choses charnelles, ce n'est pas bon pour nous. C'est pourquoi ça prend du temps. C'est ça la persévérance. C'est que c'est avec le temps qu'on finit vraiment par réaliser que les choses de la terre, ce n'est pas bon. Mais au début, vous allez dire, mais au début, quand on s'est converti, on l'a réalisé. Oui, au début, on est beaucoup plus séduit par Dieu, par sa beauté, par sa grandeur. C'est le premier amour. On dit, Seigneur, je lâche tout pour toi. Mais avec le temps, on se dit, mais telle chose, je peux récupérer, non? Je ne vois pas le mal dans ça. Telle autre chose, je peux récupérer, non? Je ne vois pas le mal dans ça. Ce n'est pas écrit que c'est un péché. Telle chose, je peux récupérer. Et on commence à récupérer. Là, maintenant, il faut un deuxième temps. Et ce temps-là, c'est par la persévérance que Dieu va nous amener à la délivrance. Il faudra du temps pour nous faire comprendre que non, non, mon cher, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui est utile, c'est moi. Tout le reste, hein, même si c'est permis, c'est la chair. Entre dans la vie spirituelle que j'étais ouverte. C'est ça la meilleure. C'est ça le but de la persévérance. À la fin, tu te rends compte, après le temps de désert de persévérance, mais c'est Dieu qui est tout pour moi. Au début, on s'en rend compte. C'est pourquoi il dit quoi au verset 17. On peut lire le verset 17.
Là, je lui donnerai des vignes et la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte.
Voilà. Donc, quand tu sors d'Égypte, tu te dis, mais oh, la mer rouge s'est fendue en deux. Dieu nous a délivrés de l'Égypte. Vous savez, l'Égypte, c'était quoi? Une grande puissance, une grande armée. Les enfants d'Israël avaient quoi? Rien du tout comme arme. Mais Dieu les délivre. Quelle joie! Myriam a chanté. Ils ont commencé à chanter. C'était la joie. Dieu est tout pour nous. Mais après, c'est la même chose pour nous. Le jour de la conversion, les gens, même parfois, quand ils doivent se faire baptiser, ils pleurent. Vraiment, maintenant, j'ai compris que Dieu, c'est tout pour moi. Maintenant, je lui donne ma vie. Oh, tout le monde est dans la joie. Mais une semaine après, oh, mais pourquoi pas écouter telle musique? Je ne vois pas le mal. Hein. Mais pourquoi pas regarder tel film? Je ne vois pas le mal. Hein. Mais pourquoi pas causer de telles choses? Où est le mal? Pourquoi pas? Et maintenant, on perd tout le premier amour qu'on avait. L'amour de la jeunesse. Quand on avait connu Dieu, on avait l'impression que c'est lui qui est le seul à avoir un goût. Tout n'avait plus de goût. Maintenant, on est obligé de passer par la persévérance pour dire non. Malgré tout ce que le monde me présente comme attraction, non, 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 je reste dans le Seigneur. Non, non, non. Donc, pendant tout ce temps-là, le Seigneur va s'employer à nous purifier du péché et des attraits de ce monde. Ça demande du temps. D'où la persévérance. Pendant ce temps-là, on dit non, non, non. Même là, voilà. Être prêt de tomber, ce n'est pas tomber. Je résiste, je prie, voilà, jusqu'à ce que mon état de sainteté revienne. Voilà. Mais maintenant, pendant ce temps-là, on oublie que Dieu est notre mari, puisqu'on a pris goût à autre chose. C'est ça. On a pris goût à d'autres hommes. C'est ça. Dieu dit, Israël, tu es devenu infidèle. Donc, tu as pris goût à autre chose. Et il y a un temps, ce temps-là, c'est le temps de travail pour dégoûter du péché, être dégoûté du péché, être dégoûté de la chair. C'est le temps de travail. Quand David a vu ce qu'il a pu faire, prendre la femme d'autrui et tuer un homme à cause d'une femme, quand il a vu tout ça, il a dit, bon, je suis mauvais, le péché est en moi. C'est ça qu'il a fait le psaume 51. Il a dit, je suis né avec le péché. Il a fallu ce temps-là pour être dégoûté de la chair. Notre chair est une chair de péché. Il a été dégoûté de ça. pour avoir les yeux fixés sur qui ? Sur le mari, l'époux. Voilà. C'est ce temps-là de persévérance. Deuxièmement, pour être dégoûté de soi-même, de ses propres efforts. Dégoûté de ses propres efforts. Jacob a toujours fait des efforts. Pour avoir le droit d'aînesse, il a fait un plat de lentilles. Il propose à son frère. C'est son effort à lui. J'ai eu le droit d'aînesse. Je me suis battu pour ça. Mais pourtant, c'était la promesse de Dieu. Mais lui, il s'est battu pour ça. Il a toujours fait des efforts. Jacob, pour avoir ses deux femmes, il a dû faire des efforts 7 ans à chaque fois. Jacob, pour pouvoir s'en sortir de chez Laban, très riche, même si on sait que Dieu permet toujours que tout ce qu'on nous a pris revienne. Mais lui, il a fait des efforts. Il a pu s'en sortir très riche. Contre l'ange, il s'est battu. Mais on voit que, qu'est-ce qui s'est passé? Ses efforts ont été vains parce qu'il a eu la hanche déboîtée. Mais Dieu a reconnu son amour pour lui. C'était le côté spirituel que Dieu a reconnu, a mis le nom d'Israël sur lui. Mais si on doit regarder au physique, il a eu la hanche déboîtée. Mais maintenant, quand on prend Joseph, qu'est-ce que Jacob peut faire? Ah! Qu'est-ce que Jacob peut faire? Quand on vient lui dire, voilà le sang de ton fils sur sa tunique. Certainement, il a été tué. Qu'est-ce que Jacob peut faire là? À l'époque, il n'y avait pas de radars, il n'y avait pas d'hélicoptères, il n'y avait pas tout ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Le sang est sur la tunique. Il n'y avait pas de microscope pour savoir que c'était le sang d'un animal en réalité. Qu'est-ce qu'il peut faire? Pour une fois, Jacob est vaincu. Tous ses efforts ne peuvent pas l'aider. Pour une fois, Jacob est vaincu. L'histoire de Joseph a vaincu Jacob. Jacob est devenu un humain normal. Mais toujours attaché à Dieu. C'est ça la différence, bien-aimé. Toujours attaché à Dieu. Son Dieu est resté son Dieu. C'est pourquoi quand le monsieur se découvre devant Pharaon, il dit, « Ah, Pharaon, mes jours ont été difficiles. » Oui, nos jours sont difficiles parce que la chair que nous avons est une chair compliquée. Et la dompter, ça prend du temps même à Dieu. C'est pourquoi parfois ça peut s'allonger, toutes ces épreuves. Nous avons une chair rebelle à Dieu. Tout serviteur de Dieu vous dira, mes jours sont difficiles, ont été difficiles. Parfois on passe d'épreuve en épreuve. Aujourd'hui, une épreuve, à tel point que Dieu m'a dit, arrête de chercher à finir les épreuves, quoi. Parce que il y a des moments où on se dit, ah ben, quand telle épreuve finira, ouf, je vais souffler. Dès que ça finit, il y a une autre qui commence. Donc l'Esprit Saint m'a dit, arrête, vis avec les épreuves, c'est tout. C'est notre temps, notre chair est difficile. Elle a le mal en elle et les épreuves permettent de la briser afin que l'Esprit de Dieu vive en nous. Et Hudson Taylor est parti évangéliser en Chine. Il faisait beaucoup d'efforts, il a eu beaucoup d'idées. Ce sont des idées même qui viennent du Seigneur. Il a fait beaucoup de choses. Une vie correcte, hein? Pas de péché. Mais, il y avait un côté effort personnel qui était toujours là. Et donc Dieu a permis que sa première fille meure, sa deuxième fille qui meurt, donc il n'avait plus d'enfant, et puis c'est sa femme qui meurt. Vous allez dire, mais bien-aimé, mais papa, c'est cruel là. Réfléchissez, bien-aimé, l'histoire entre nous et Dieu est une histoire d'amour. Ne provoquez pas l'amour, cantique des cantiques, avant qu'il ne le veuille. Ne provoquez pas l'amour. Dieu voulait une histoire d'amour avec Hudson Taylor. C'est comme ça. Et quand sa femme est morte, c'est là que finalement Hudson Taylor comprend. Allez suivre ce film-là, c'est sur YouTube. C'est quand sa femme meurt qu'il accepte désormais que c'est Dieu qui agira dans sa vie et pas lui-même. Une fois, on avait envoyé une pensée du jour comme ça. Ça peut faire parfois 30 ans, 40 ans pour qu'un homme capitule devant Dieu. L'homme est difficile pour capituler devant Dieu. Et ça peut faire beaucoup d'années. C'est pourquoi, entre-temps, ça demande la persévérance pour rester pendant cette année toujours attaché à Dieu, mais sans une relation d'épouse à mari, mais on est quand même attaché. C'est ça, Jacob. Jusqu'au bout, il était attaché à son Dieu. C'est ce qu'il dit dans 48.1, on va lire, Jacques Frère, 48.1-7. Ça restait son Dieu, malgré ses jours mauvais. Il savait que son Dieu était au contrôle. Il aimait ce Dieu. Maintenant, ça devenait un mari pour lui. Il pouvait l'aimer en toutes circonstances. Voilà, 48.1-7.
Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. » Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Paddan, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Éphrata. Et c'est là que je l'ai enterrée sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem.
Voilà, Jacob raconte sa relation avec Dieu à son fils. Il veut partir, il dit à son fils, Dieu m'est apparu. Ça c'est maintenant, voilà. Au fait, il a une histoire personnelle avec Dieu qu'il partage maintenant à son fils. Mon fils, Dieu m'est apparu et voilà que il m'a promis ceci, il m'a promis cela. Ça nous ramène à Hébreux 10, 36. Ça nous ramène à cela. C'est que ça nous dit, vous avez besoin de persévérance de sorte qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous receviez ce qui a été promis. La persévérance, ça va ensemble avec les promesses. Persévérer, ça veut dire c'est continuer à attendre les promesses malgré vents et marées. Jacob dit ça à son fils. Il dit, voilà mon histoire avec Dieu. Quelle est ton histoire avec Dieu, bien-aimé? Il faut avoir une histoire. Il faut avoir des promesses. Sinon, ce n'est pas une vraie vie chrétienne. Il faut qu'il y ait quelque chose qui t'a touché autrefois, que tu attends de voir. Marie, quand elle a eu Jésus, les prophéties des anges, d'Anne, de Siméon, tout ça, il est écrit qu'elle entendait tout ça. C'est pourquoi le jour de la mort de Jésus, elle était là. Elle n'était pas découragée parce qu'on lui avait dit, ton cœur sera blessé, éprouvé. Elle était là en face, dans la souffrance. Mais c'est Dieu qui avait peur. Parlait de ça déjà. Elle attendait que tout ça arrive un jour. Et elle a vu aussi la résurrection de son fils. Amen. Une histoire d'amour. Jacob dit à son fils, il raconte son histoire d'amour avec son Dieu. Il dit, même Rachel est morte en chemin. Et dans l'histoire d'amour, il y a des moments difficiles. Rachel est morte, ta maman est morte en chemin. Mais il leur dit dans la suite, puisqu'on ne va pas tout lire, on lit le verset aussi 21.
Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir. Mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. »
Amen. Bien-aimé, ça c'est l'histoire d'amour avec Dieu. Un vrai serviteur a toujours une histoire d'amour avec Dieu. C'est pourquoi avant qu'il ne meure, il peut laisser quelque chose, un message à ceux qui restent. Pour dire, mais il leur dit, notre Dieu est fidèle, malgré tout ce que j'ai connu. Vous savez, il a dit à Pharaon, mes jours ont été difficiles. Mais difficile, ça ne veut pas dire que Dieu a été faible. Difficile pour la chair. Que ton fils disparaisse 20 ans, le fils que tu aimes le plus. C'est difficile. Mais quand tu sais que c'est Dieu qui est au contrôle, ça te permet une vraie relation avec ce Dieu-là. Au fait, tu comprends ce que Dieu attend. Tu comprends qui est Dieu à travers ce genre d'épreuve. Sinon, tu es dans la mauvaise compréhension. La compréhension du donnant-donnant. Vous savez, la compréhension d'aujourd'hui, c'est le café instantané. C'est la compréhension du bouton. Vous savez, le bouton, quand tu appuies « off », ça éteint la radio. Tu appuies « on », ça allume. Tu branches le fer à repasser. Tu tournes au maximum. La lampe témoin s'allume. Et beaucoup ont cette relation avec Dieu. Une relation mécanique. Je prie, on m'exauce. C'est une relation mécanique. Dieu veut une relation d'amour. Marchez maintenant désormais ensemble. Priez pas seulement, on va m'exaucer. D'ailleurs, Jésus l'a dit quand il a prié pour la résurrection de Lazare. Il dit, je ne prie pas parce que je cherche l'exaucement. Il a dit, je prie afin que les gens voient ma relation avec toi. C'est ça ce que Jésus a dit. Je prie parce que je suis en relation avec toi. Les gens doivent savoir que je viens de toi. C'est tout. Mais il n'a pas dit je cherche l'exaucement. Il a dit Père, je sais que tu m'exauces toujours. Bien, mais combien de fois Dieu ne nous a pas fait des dons sans qu'on ait demandé? Qui ne s'en souvient pas parmi nous? Et on dit, mais justement, j'avais besoin de ça. Mais est-ce que j'avais prié pour ça? Même pas. Mais tu as eu. Mais Satan continue à nous faire croire que la prière, c'est pour demander et recevoir. Demander et recevoir, non. La prière, c'est pour fonctionner avec Dieu. Partager avec Dieu. Parler avec lui. Mais lui dire aussi nos problèmes aussi. Mais on marche avec lui. Je l'ai amené au désert et il ne m'appellera plus son maître, son ordinateur, mais elle m'appellera maintenant mon mari. Ce n'est pas... Vous savez, il y a des gens qui ont des maris portefeuilles. Donc le mari ne sert que lorsqu'il donne et lorsqu'il peut faire des bricolages à la maison. Il y en a qui disent même, je cherche quelqu'un... Vous savez, il y a des femmes qui cherchent un homme et disent, je cherche quelqu'un pour porter mes valises. Donc elles ont bien résumé la situation. Elles n'ont pas vraiment besoin d'un homme, mais elles ont besoin de quelqu'un qui va les aider à porter les valises, à changer les portes à la maison, ainsi de suite. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut une histoire d'amour. Et ça se partage dans les épreuves et les difficultés. Il a dit à Jacob, aux autres, il dit, Dieu vous sortira d'ici. Amen. Je le connais, il vous sortira d'ici, d'Égypte. Préparez-vous. C'est mon Dieu, qu'il soit aussi votre Dieu. C'est ça la relation d'amour. On la partage avec les autres. Et ça demande la persévérance. La foi que Dieu accomplira ses promesses. C'est ce que Jacob avait comme foi. Il dit, il vous sortira, il accomplira ses promesses. Il m'a promis la terre de Canaan, il vous la donnera. Je crois en lui parce que sa relation avec Dieu est devenue une relation d'époux et d'épouse. Il savait que pensait Dieu, qui était Dieu. Je crois désormais. Il vous sortira d'ici. La persévérance, comme j'ai dit, c'est pour nous vider de notre propre force. Ce temps de persévérance, nous vider de notre propre intelligence, afin que l'esprit agisse pleinement. Bien-aimés, écourtons ce temps-là, hein, capitulant devant Dieu. En disant, je m'abandonne maintenant à toi, Seigneur. I surrender. je capitule. Maintenant, je m'abandonne. Écourtons ce temps-là parce que sinon, ça va durer toujours. Regardez comment ça a duré pour Jacob. Mais parce qu'il était aussi le plus entreprenant de tout. Que ce soit... Vous voyez Isaac, comment Isaac était. Hein? On lui prend un puits, il va chercher un autre puits. Isaac avait appris très tôt à laisser Dieu faire. On lui prend un deuxième puits, il va chercher un autre puits. Mais Jacob était toujours très entreprenant. Il fallait non seulement qu'il soit purifié du péché, il fallait qu'il soit purifié de lui-même, de ses propres efforts, de sa propre force, de sa propre logique, de la logique charnelle, du légalisme. Je fais ceci afin que Dieu me fasse cela. Ça, c'est la logique de maître. Je fais ceci à mon maître, il va me faire cela. Mais Dieu dit, il faut que tu sois mon mari. Je sois ton mari. Troisièmement, bien-aimé, la persévérance, c'est pour solidifier notre foi dans les promesses. Que notre attente soit une attente certaine. Dans nos tripes, comme Jacob qui va s'en aller, il dit, ça s'accomplira. Il vous sortira. Joseph, même chose, avant de partir, de mourir, il dit aux gens qui l'assistaient, il dit, Dieu vous sortira d'ici d'Égypte. Et quand vous sortirez, n'oubliez pas mes ossements. Ramenez mes ossements qui doivent être enterrés auprès de mes pères, à Canaan, dans la grotte de Macpéla. Mamré. Là-bas, ce que Abraham a acheté au Hétien, là. Et c'est ça, bien-aimé, l'amour, une histoire d'amour. C'est devenu une histoire, mon histoire d'amour. C'est ça. Dieu vous sortira d'ici. L'histoire continuera avec vous. C'est une histoire d'amour. Notre histoire d'amour, bien-aimé, c'est ça. Les promesses du Seigneur s'accompliront. Nous devons le croire avec force. Les promesses s'accompliront. C'est ça l'histoire d'amour. Beaucoup vivent la vie chrétienne comme ça, légèrement. Pour du donnant, je prie, on me donne, en attendant, un jour j'irai au ciel. Mais bien aimé, il y a beaucoup de promesses que le Seigneur a faites aux enfants de Dieu. Nous devons vivre dans cette logique-là, de ces promesses-là. Vivre en se disant, un jour, nous verrons la Normandie sauvée. Un jour, je verrai la France touchée. Un jour, j'entendrai une prière au Parlement français. Voilà. Il faut qu'il y ait une histoire avec Dieu. Sans histoire, bien-aimé, il y a un problème. Jacob, il dit, le Seigneur vous sortira d'ici. Et nous lisons Apocalypse 2, 1 à 4 pour clôturer.
Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.
Voilà ce que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Au début, quand tu t'es converti, Dieu était tout pour toi. Mais au milieu, là où tu dois apprendre maintenant concrètement cela, que Dieu est tout pour toi, tu as récupéré des choses. Et le temps ne fait que s'allonger. Mais béni soit Dieu, parce que tu as gardé la foi. Mais il faut garder la foi jusqu'à ce que notre histoire, l'histoire entre nous et Dieu devienne une histoire d'amour. C'est-à-dire qu'on marche avec lui Tout est pour lui. Nous vivons pour lui désormais. C'est une histoire d'amour. Et c'est ça. C'est pourquoi ça prend du temps. Ça prend du temps parce que Dieu doit nous vider du péché. Il doit nous vider du goût du péché. Il doit nous vider de notre propre force. Et ça prend du temps puisqu'on est résistant. Mais même si quand ça prend du temps, gardons la foi. Persévérons jusqu'au bout. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'as plus le premier amour. Mais tu fais tout bien. Bien-aimés, souvenons-nous des menaces du Seigneur. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur et Seigneur qui seront sauvés. Dans Matthieu 7, il dit que beaucoup de gens diront même Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons prophétisé. Il dira, je ne vous connais pas. Ce n'était pas une relation d'amour. Ce n'était pas une relation d'amour. Vous ne pratiquez pas la volonté de mon Père. Je ne vous connais pas. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'on draine des masses pour nous écouter pendant qu'on prêche. Ce n'est pas parce que nous faisons des miracles. Ce n'est pas parce que nous parlons bien que ça impressionne Dieu. Tout ça, c'est Dieu lui-même qui fait ça en nous. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est l'histoire d'amour avec lui. C'est ça qui compte. Qu'on finisse par comprendre qui il est. Qu'est-ce qu'il veut, et qu'on tienne à cela, et qu'on soit prêt à mourir pour cela. C'est ça la vraie histoire d'amour. Et les premiers chrétiens avaient cette histoire d'amour-là. Hein, on Perpétue et Félicité se retrouvent à Carthage, en Tunisie à l'époque. Elles sont condamnées à mort à cause de l'évangile. Et je crois soit Perpétue ou Félicité, l'une d'entre elles était enceinte. Mais la loi interdisait ce qu'on tue une femme enceinte. Il fallait qu'on attende qu'elle accouche. On prend l'enfant, on la tue elle. Donc on a attendu qu'elle accouche. Et son papa est venu prendre l'enfant. Son papa récupère l'enfant et elle voit sa fille être amenée pour être exécutée. Elle dit à sa fille, ma fille, tu vas me laisser avec l'enfant. Pourquoi tu veux que cet enfant-là soit orphelin de sa maman? Renie Jésus. Et garde l'enfant. Sa fille a dit, non, papa, j'aime Jésus. Voilà l'histoire d'amour. Et elle est partie pour être exécutée. Elle est morte. On nous raconte qu'ils ont tout fait. Les animaux n'ont pas pu la tuer. Des taureaux. Elle ne mourait pas. J'ai oublié comment finalement elle est morte. C'est Dieu qui a dit, bon, maintenant elle peut mourir. Mais ils avaient utilisé tous les moyens avec des animaux sauvages. Elle n'était pas morte. Ça, c'est l'histoire d'amour. C'est ça qui manque dans le christianisme d'aujourd'hui. Où on est dans une relation de Dieu chef d'entreprise, nous employés. Dieu banque, nous clients. Il n'y a plus la relation. Bien-aimé, l'amour peut aller loin. C'est pourquoi Cantique de Cantique nous dit, ne provoquez pas l'amour. Parce que ça peut aller loin. Vous voyez, hein, ça va loin. Tu laisses ton enfant et toi, tu vas mourir. Pour Jésus. Mais parce que l'amour est trop fort, ne provoquez pas l'amour. Mais bien aimé, en même temps, nous voulons provoquer l'amour parce que c'est ça qui est beau. Cantique de Cantique nous dit ne provoquez pas pour nous dire attention, c'est ce que tu cherches là. Mais en même temps, nous disons, nous savons à qui nous avons affaire, nous préférons l'aimer. Vivre de cet amour-là, avec lui, c'est la meilleure relation qui soit. Aimer Dieu de cette manière-là et recevoir son amour de cette manière, de plus que ça même. Mais comme c'est beau, comme c'est extraordinaire. Mais pourquoi cette fille-là accepte d'aller la mourir? Parce qu'elle était saisie de cet amour. Cet amour est plus fort que ce qu'on voit. C'est plus fort que tout. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'as pas cet amour pour moi. Tu es dans les activités, mais tu n'es pas dans l'amour. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout. L'amour est tellement fort qu'il supporte tout. On va te tuer, mais tu acceptes par amour. Comment attendre pendant ce temps de persévérance? En ressassant les promesses de Dieu. On ressasse les promesses de Dieu. On se rappelle notre histoire avec Dieu. Et on prie. Parce que souvenons-nous, c'est pour nous vider de nos propres forces. Mais comment on sait qu'on est vidé de notre propre force? Quand on peut prier pour tout. quand on peut prier, au lieu de se concentrer, dire je vais triompher de cette épreuve, tu dis Seigneur, aide-moi à triompher de cette épreuve. Seigneur, aide-moi à aimer mes ennemis. Beaucoup ne prient même pas. Ils se disent, bon, la Bible dit que je dois aimer. Moi, je n'arrive pas. Et ils restent dans une méditation personnelle. Non, il faut demander tout au Seigneur. Seigneur, je suis vidé. Je n'ai plus de force. Relève-moi. Fortifie-moi. Aide-moi. Sauve-moi. Voilà. La patience, la persévérance, ça va avec la prière. On commence à prier. Même Jésus, le Fils de Dieu, a prié à Gethsémané. Il a prié. Père, suis dépassé. Fais quelque chose. Et un ange est venu le soutenir. Il a prié pendant une heure. Il a dit à ses disciples, vous n'avez pas tenu une heure avec moi dans la prière. Il fallait le faire. Veiller et prier. Donc c'est ça. Donc quand on est vidé de nous-mêmes, on apprend maintenant à prier puisqu'on est vidé de nous-mêmes. Et ça peut prendre du temps pour être vidé de soi-même. L'histoire d'amour avec Dieu, ça passe par la persévérance. Bien-aimés, aujourd'hui, on peut écourter les choses en s'abandonnant entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, tu peux décider, Seigneur, ça suffit. Ça suffit de te résister. Maintenant, je capitule. Je m'abandonne à toi aujourd'hui. Prends ma vie complètement. Je veux vivre une histoire d'amour avec toi. On peut lui dire ça maintenant, dans la prière, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui, nous venons nous abandonner entre tes mains, Seigneur. Nous venons capituler. Seigneur, nous venons te dire, Seigneur, que ça ne sert à rien de vivre sans l'amour total pour toi, sans l'amour parfait pour toi. Fais-nous entrer dans cela, l'amour que Perpétue et Félicité avaient pour toi, l'amour que les apôtres ont eu pour toi, Seigneur, l'amour de David pour toi, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, Seigneur, des gens qui ont persévéré pendant que tu étais en train de vider leur chair de leur propre force, de sa propre force. Pendant que tu étais en train de les purifier du péché, ils ont persévéré. Pendant que tu étais en train de leur apprendre qui tu es, ils ont persévéré pour apprendre jusqu'au bout qui tu étais, à travers les épreuves. Seigneur, nous venons prier que tu te manifestes, Seigneur, et prennes nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te disons de tout prendre, Seigneur. De tout prendre, Seigneur, dans nos vies. Prends, Seigneur, tout. Et fais que nous puissions attendre les promesses avec foi, avec force, dans la prière, que nous continuions à prier, que nous puissions attendre en faisant ta volonté, comme c'est écrit, après avoir accompli ta volonté. C'est ça la persévérance, que nous puissions attendre dans la prière en accomplissant ta volonté. Et nous verrons les choses s'accomplir. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.